vous invite à prendre vos Bibles dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. J'ai déjà eu des personnes qui écoutent les prédications sur Internet et qui ont dit « Ah, vous avez des bébés dans votre salle ». J'ai dit « Oui, c'est bien, ils sont bienvenus. Hein, » ça gêne pas, c'est les gens, ils aiment bien entendre les gazouillements, là. Donc, voilà. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre. Donc, 1 Thessaloniciens, 4, et à partir du verset 13. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Parce que, entre le temps où Paul et Silas et Sylvain ont été chassés, et il y a eu une grande persécution, et certains sont morts. De ceux qui avaient cru sont morts. Et alors, les chrétiens ont dû renvoyer une question avec Timothée pour lui dire, et qu'est-ce qu'il y en est de ceux qui sont morts, hein? Est-ce qu'ils vont rater le retour du Seigneur? Donc, voilà, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Ou ceux qui dorment. Il se peut que vous ayez une traduction qui dit ceux qui dorment. Hein, c'est... Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. J'ai lu ce passage quand j'étais à Rouen dernièrement, et puis il y a un étudiant en visite là, et qui est passé me voir, il m'a dit, mais vous voyez, dans ce passage, Paul se considère parmi les vivants, et bien, finalement il est mort, et puis le Seigneur n'est pas venu. Je dis, mais c'était vrai quand il l'a dit. Hein, donc, mais il y a toujours quelqu'un qui veut prendre la parole et puis essayer de dire que ce n'est pas vrai. Mais la question, c'est nous les vivants, ceux qui sont vivants. Hein, peu importe qui c'est. Et finalement, même ceux qui sont décédés dans le Seigneur, ils ne perdent rien du tout. Voilà. Et il dit donc que je ne voulais pas que vous soyez dans l'ignorance. Alors, le verset clé... de ce passage, c'est le verset 17. Il dit, nous les vivants, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est ça la partie la plus importante. Peu importe comment ça se passe, tout ce qui me suffit de savoir, c'est que nous serons tous ensemble enlevés et nous serons dans la présence du Seigneur. Je n'ai pas besoin de savoir plus. Comme je l'ai dit, les chrétiens de Thessalonique savaient que le Seigneur pouvait venir à tout moment. Mais certains étaient décédés et donc n'étaient pas là quand il viendrait, ne seraient pas là quand il viendrait. Et alors là, le Seigneur, eh bien l'apôtre Paul les encourage. Et vous avez remarqué qu'au verset 15, il dit, voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc ce n'est pas une idée à lui, il l'a reçu directement du Seigneur. Il le sait, c'est sûr, il a dit, comme le Seigneur lui a parlé sur d'autres sujets, et parfois Hein, comme 1 Corinthiens 11, hein, on a parlé de la scène, le Seigneur a dit, Paul a dit, j'ai reçu du Seigneur. Hein, et là aussi, c'est une parole, il dit, j'ai reçu directement du Seigneur. Et voilà comment ça va se passer. Donc nous pouvons être sûrs que c'est ainsi que cela va se passer. Et donc parce que cette information est là, eh bien, voilà, ça répond, il dit, cette parole du Seigneur, il dit, voilà, d'après la parole du Seigneur, le mot parole, là, c'est logos. Hein. Donc c'est la parole vivante du Seigneur. Pas juste un mot qu'il a dit, mais la parole, cette parole qui a créé le monde, cette parole qu'il est lui-même, c'est cette parole sûre, celle qui a en elle-même la vie et l'énergie, eh bien, c'est cette parole-là qui lui a été donnée. Et donc, il n'est pas nécessaire que nous soyons dans l'ignorance à ce sujet. Et puis, donc, verset 13, et puis au verset 15 dit, « Et que vous puissiez vous consoler les uns les autres. » Vous encouragez mutuellement. Voilà. Il y a parfois la confusion au sujet de l'avènement du Seigneur. Quand on dit avènement, le mot avènement veut dire le retour, hein, le moment où il viendra. Et parfois, il y a de la confusion. Et là, au verset 15, il nous dit, hein, il nous parle de ceux qui seront restés pour l'avènement du Seigneur. Hein. L'avènement du Seigneur, c'est le retour du Seigneur. Mais... en fait, le retour du Seigneur se fera en deux étapes. Il y a une première partie qui concerne l'enlèvement. Hein, il vient, mais dans les airs. Il ne pose pas les pieds sur terre, il s'arrête dans les airs. Et il y a l'enlèvement de ceux qui sont en Christ, les morts en Christ. Hein, c'est ça qu'il nous dit dans le verset 16. Verset 16, cette expression, ceux qui sont morts en Christ, ceux qui sont morts dans la foi. Donc il arrive dans les airs. Et puis il enlève l'Église. Et ensuite, il y a aussi, il parle du jour du Seigneur. Et ça, c'est quand il viendra poser les pieds sur terre. Donc l'enlèvement du Seigneur, ça correspond à cette promesse du Seigneur dans la chambre haute, où il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Alors s'il dit, je viens vous prendre pour vous emmener où vous êtes, c'est-à-dire que ce ne sera pas sur terre. Hein? Tandis qu'il y a d'autres promesses concernant son retour sur terre et un royaume sur terre. Donc il y a deux choses qui se passent qu'il ne faut pas confondre. Et donc, celle qui, dans notre passage, eh bien, il s'agit de cet enlèvement dans les airs, et pour aller dans la gloire. Ensuite, et nous verrons dans le chapitre 5, donc de 1 Thessaloniciens, dans le chapitre 5, là, il parle du jour du Seigneur. Laissez-moi vous lire juste quelques passages, pas pour les traiter, mais il dit au chapitre 5, verset 1, il dit, « Pour ce qui concerne le temps des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur, voilà l'expression, le jour du Seigneur, viendra comme un voleur dans la nuit. » Quand les hommes diront « paix et sûreté », une ruine soudain les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour ce jour, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit et des ténèbres. » Oui, il est en train de faire une distinction. Il dit « il y a vous » qui est de la lumière, et puis après, il y a ceux qui seront surpris, qui sont des ténèbres. Hein, donc la première partie, donc, ce dont il nous parle au chapitre 15, l'enlèvement, ça concerne les croyants. Ce dont il nous parle au chapitre 5, c'est pour les non-croyants qui seront sur terre. Hein, donc voilà une distinction de base. Et si vous voulez plus de détails sur ce qui se passe dans ce retour sur terre, ben, vous lisez Matthieu 24 et 25, hein. Et donc ça correspond plus à sa venue sur terre. Hein, donc il faut, quand on lit les passages, il faut les distinguer, sinon ça crée de la confusion. Donc premièrement, nous voulons voir les bases de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement, donc cette première partie, les bases de l'enlèvement de l'Église. En fait, l'enlèvement de l'Église, c'est la suite naturelle de deux vérités fondamentales que nous connaissons bien, la mort de Christ et la résurrection de Christ. S'il est mort, il est ressuscité, il est monté dans la gloire, eh bien, il est en train de préparer un chemin pour nous aussi. Mort, résurrection, et puis aller dans la gloire. C'était là. Et comme on aurait pu le lire dans 1 Corinthiens 15, il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc, prémices, ça veut dire qu'il y a de l'autre qui suit. S'il y a prémices, c'est qu'il y a le reste de la récolte qui arrive derrière. Jésus est mort, c'est parce qu'il savait qu'il allait apporter quelque chose que nous ne pourrions pas avoir autrement. S'il était prêt à passer par là, eh bien, c'est qu'il avait. Il pouvait pourvoir ce que nous ne pouvons pas avoir, pourrions pas pourvoir à nous-mêmes. Et c'est pour, et je fais la distinction sans le développer, mais vous mettez ça dans votre tête, dans le cas, il est venu pour vaincre le péché qui est la nature pécheresse qui est en nous, et il est venu pour obtenir le pardon de nos péchés. Donc, il y a le péché et il y a les péchés que nous commettons. Le péché, ce n'est pas notre faute. Nous l'avons hérité, mais Christ l'a réglé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il est venu pour enlever le péché. Personne ne mourra parce qu'Adam est mort, parce qu'Adam a péché. Nous, on n'est pas responsable. Christ a réglé ça. Maintenant, pour nos péchés, alors là, nous devons venir à Christ pour la question de nos péchés. Je ne vais pas développer cela, vous pourrez dans Romains, il fait cette distinction dans les premiers chapitres de Romains, et vous pourriez lire ça là. Quand Christ est mort sur la croix, il a réglé la question du péché, et puis il a offert à chacun la possibilité d'obtenir le pardon de ses péchés. Et là, quand le péché est écarté, quand les péchés sont pardonnés, eh bien, nous pouvons retrouver la communion avec le Créateur, tel que Dieu l'avait prévu dans le jardin d'Éden, et il nous donnera bien plus. Parce que là, c'était une communion uniquement sur terre, dans le jardin d'Éden. Maintenant, nous aurons une communion sur la terre et dans le ciel. Si Jésus est mort, c'est pour que nous n'ayons pas à mourir pour le péché, pour le salaire du péché, puisque lui, il le porte. Et si nous devons vivre de cette vie nouvelle, eh bien, c'est pour le vivre dans la gloire avec lui. C'est le jugement règne sur cette terre, et donc pour que nous ne soyons pas sous ce jugement, eh bien, il doit nous enlever. Quand vous condamnez un groupe, et ben si vous voulez en sauver, il faut les sortir du groupe. Quand David avait vu qu'une certaine ville l'avait dénoncé auprès de Saül, mais il y avait des gens qui habitaient dans cette ville qui savaient étaient avec lui, et ben il leur a dit, écoutez, vous quittez la ville parce que je vais détruire ce peuple. Et donc, il faut sortir. Jésus, s'il veut nous sauver, parce qu'il y a un jugement sur cette terre, eh bien, il doit nous enlever pour pouvoir juger cette terre. C'est comme il a sorti Lot et sa femme de Sodome avant de condamner la ville. Il n'y a rien de plus naturel que le fait de nous enlever. Alors, méfiez-vous des gens très gentils, même qui aiment le Seigneur, mais qui vont vous dire, ce monde, eh bien, ça ira de mieux en mieux, et Jésus, en fait, il est déjà là. Les témoins de Jéhovah le croient déjà, qu'il est déjà là. Et puis, il y a d'autres qui pensent que ils disent, il n'y a pas de. On va continuer à vivre sur terre, et puis ça ira très bien. Ben, ce n'est pas logique. Nous serons enlevés. Jésus a dit, je viens vous chercher, je vais en prendre. Et nous avons des passages. Je vais vous citer des passages. Un premier dans 1 Corinthiens 15, 22 et 23 dit: Tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc il parle de cette résurrection. Il dit en 1 Corinthiens 6, 14, il dit « Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi avec, par sa puissance. Hein, » Il nous ressuscitera aussi par sa puissance. La puissance qu'il a démontrée dans la résurrection de Christ. Si, écoutez, si quelqu'un est capable de se ressusciter soi-même, ne croyez pas qu'il est capable de vous ressusciter. Hein? Quel est le plus difficile ? Se ressusciter soi-même, de mourir et se ressusciter, ou de ressusciter quelqu'un d'autre. Donc, il a démontré qu'il est capable de ressusciter. Nous pouvons croire. Et il y a eu des témoins qui l'ont vu ressusciter. Donc, il y en a qui ils savent qu'il est mort. Les Romains qui savaient tuer, ils étaient sûrs qu'il était mort. Et puis après, il y a d'autres qui l'ont trouvé réellement ressuscité. On ne pouvait pas le nier. Donc, s'il a pu le faire, combien plus est-ce qu'il peut le faire pour nous? Et puis 2 Corinthiens 4, 14 nous dit « Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Hein, » Donc, cette question de « Il est ressuscité, nous ressusciterons. Là où il est, nous serons. » Ce sont les points essentiels. Hein, si c'était un homme qui avait inventé cela, eh bien, il aurait trouvé d'autres choses à dire. Hein? Même si la ville, la grande Jérusalem, est décrite un peu comme de l'or et ceci, cela, mais l'élément essentiel pour nous, ce n'est pas le fait qu'il y ait de l'or. Hein? Parce que s'il y a de l'or partout, ben, l'or, c'est comme du goudron. Hein? Ça devient ordinaire. Hein? C'est parce que c'est rare que c'est précieux. Mais s'il y en a partout, ce n'est rien de spécial. Hein? Il nous dit à l'époque de Salomon que l'argent, c'était comme les cailloux sur le bord de la route, tellement il y en avait. Donc, ce qui importe, et la Bible met l'important, c'est le fait qu'on soit dans la présence du Seigneur. Et donc, basé sur ces deux faits, le fait que Christ soit mort et qu'il soit ressuscité, eh bien, nous pouvons croire à cet enlèvement, cette résurrection. Hein? Nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Hein? Thessaloniciens 4, 14. Hein? Et donc, mais bien sûr, il faut ceci s'intéresse uniquement ceux qui ont placé leur foi en Christ, hein, que en sa mort, en sa résurrection. Ceux qui le croient, ceux qui le nient, eh ben, ne pourront pas avoir part à cela. Quand il nous dit Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Hein? Maintenant. L'enlèvement est une chose logique, une suite logique, et c'est sûr, et nous avons les preuves de ce qui est arrivé, donc nous permet de croire ce qui va arriver. Mais ensuite, il y a la forme de l'enlèvement. Comment est-ce que cela va se passer? Eh bien, premièrement, quand il parle de l'enlèvement, il ne répond pas à la question « quand », mais il répond à la question « comment ». Hein, les disciples dans Acte 1, 7, il dit, est-ce que c'est à ce moment-là que tu établiras le royaume? Il a dit, c'est pas à vous de savoir quand. Donc, vous savez, si quelqu'un vous dit, ça, il vous donne une date du retour du Seigneur ou sur la fin du monde, quelque chose, dès qu'il vous donne une date, vous savez, vous pouvez, cette date-là, vous êtes sûr que ce ne sera pas ça. Personne ne sait, impossible de calculer. Il y en a qui le calculent, hein. Hein, les témoins de Jéhovah, par exemple, eux, ils l'ont calculé déjà en 1914. Puis après, c'était pas ça. Après, ils l'ont recalculé. Ils ont eu la Deuxième Guerre mondiale. Et puis après, depuis, il y a eu rien de bien de gens. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui calculent, qui recalculent. Mais quand Jésus était sur Terre, il a dit le Fils de l'homme lui-même, il ne sait pas. Alors, si lui, le savait pas dans son état humain, hein, dans son incarnation, combien plus nous ne pouvons pas le savoir. Hein, ça, c'est une chose que Dieu ne nous dit pas. Et il y en a qui passent tellement de temps à calculer quand il va venir, que quand il viendra, ils ne seront pas prêts. Hein, si par exemple, il y a deux enfants, et les parents, ils ont dit, écoute, on veut que tu nettoies la chambre, on veut que ça soit tout nettoyé quand on revient. Mais ils disent pas quand ils vont revenir. Alors les deux enfants, ils se mettent dans la chambre et puis ils commencent à calculer. Voilà, ils ont dit qu'ils vont aller là, ça prend combien de temps, ils restent là à calculer. Jusqu'à ce que tout d'un coup, les parents sont là. Après, comment ils font? Ils auraient mieux fait de ramasser la chambre et puis après, ils peuvent être tranquilles. Hein? Alors, il y a des chrétiens qui passent tout leur temps à faire des calculs et ils nous disent, écoute, il vaut mieux vous sanctifier, vous préparer pour son retour. Comme ça, vous n'êtes pas pris au dépourvu. Hein? Comme les 10 vierges, il y en avait 5 qui ont été pris sans huile pour leur lampe. Alors, au lieu de s'attarder sur la chronologie des événements, eh bien, regardons d'abord la place prééminente qu'on donne au Seigneur dans ce passage. Au verset 15, il dit « d'après les paroles du Seigneur ». Au verset 15, il nous dit « l'avènement du Seigneur ». Verset 16 dit « le Seigneur lui-même descendra du ciel ». Au verset 17, il dit « enlevez avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs ». Et au verset, deuxième partie du verset 17, « et nous serons toujours avec le Seigneur ». Donc, quand on pense à l'avènement du Seigneur, eh bien, c'est cette pensée d'être avec lui. Et ce doit être notre pensée, être avec lui. Et si je crois que je serai avec lui, eh bien, je me prépare pour être avec lui. Je ne vais pas demander combien de temps, hein, quand le jeune homme et la jeune fille se fixent un rendez-vous pour se rencontrer, je ne demande pas combien de temps elle prend pour se préparer pour cette rencontre. Et ça, c'est juste un jeune homme qu'elle connaît. Et combien de temps, si elle doit se refaire la face, et si elle doit se refaire, et puis, les amis, non, je mets pas ça, non, je mets ça, non, je mets pas ça, non, j'ai rien à mettre, ça peut passer une demi-journée, hein. Et ça, c'est juste pour rencontrer le jeune homme. On va se préparer pour rencontrer le Seigneur de gloire. Alors, préparons-nous dans nos cœurs. Donc, l'essentiel de cet événement, s'agit vraiment d'un enlèvement. Et il est en train de dire, en fait, il répond, il en dit, mais écoutez, ceux qui sont morts, eh bien, ils ne vont pas arriver en retard. Hein, d'abord, ils vont arriver. Mais en fait, la réalité, c'est qu'ils vont arriver avant nous-mêmes. Il dit, verset 16 et 17, il dit, « car le Seigneur lui-même a un signe à donner, à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Donc c'est lui qui donne le signal, c'est lui qui vient, c'est lui qui les ressuscite et dit les morts premièrement. Ensuite, verset 17, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur la nuée. Donc il y a un point de rendez-vous dans le ciel. Il appelle d'abord ceux qui sont morts en Christ. Ils seront là, après ensuite les vivants et puis ensemble tous se partent dans la gloire. Et il y a une chose qui est certaine qui se passe à ce moment-là, c'est que nos corps sont transformés, glorifiés. Hein? Comme le corps de Christ à sa résurrection. Vous vous souvenez, quand il est ressuscité, il ressemblait, les disciples ont pu le reconnaître, ils l'ont vu, ils ont dit, ah, tiens, ça c'est Jésus. Mais en même temps, ce n'était pas le même corps. Hein? Il apparaissait, il disparaissait, il montait dans la gloire, il dit, j'ai pas encore été chez mon Père. Puis ensuite, plus tard, il dit, vous pouvez me toucher, j'ai été chez mon Père. Il redescend, il monte, il descend. Il passe par, je ne sais pas s'il est passé par le mur ou par où il est passé quand il est rentré dans la pièce. Et en même temps, il a dit, touchez-moi, je ne suis pas un fantôme. Hein. je suis du vrai. C'est carrément une autre matière. Et bon, les scientifiques de nos jours, ils ont dit, mais c'est pas impossible, parce que vous savez, si vous avez fait de la chimie, c'est que vous avez un noyau, puis vous avez les électrons. En fait, il y a beaucoup d'espace entre le noyau et l'électron, il y a beaucoup d'espace. Et notre monde, s'il fallait le réduire, le compacter, ça serait une très petite boule. Hein. En fait, il y a beaucoup d'espace, et quand, il y a beaucoup de place dans ce mur-là, il y a de quoi passer. C'est seulement nous, notre constitution ne nous permet pas de passer. Mais sinon, l'espace est là. Et je ne sais pas comment il fait ça, mais ce qui est certain, c'est que nous serons glorifiés et nous aurons un corps qui nous permettra d'aller partout, hein, dans le ciel, dans la gloire et revenir. Parce qu'actuellement, on ne peut même pas aller dans l'espace. On n'est pas capable d'aller dans l'espace à moins d'embarquer quelque chose d'artificiel pour maintenir la respiration. On ne peut pas aller dans les mers. C'est un espace qui est interdit pour l'être humain, à moins d'avoir un scaphandre. Mais sinon, c'est une majeure partie de l'univers. Hein. Déjà sur notre Terre, la mer représente plus que la Terre. Et puis après l'espace, alors ça, c'est nous, on ne représente rien par rapport à l'espace. Tout ça, c'est actuellement, nous est interdit. On est incapable d'y aller. Mais on sera, par la glorification, il n'y aura rien pour nous empêcher. Et on aura accès à tout l'univers que Dieu a créé. Ce n'est pas pour faire rêver, c'est rien que pour dire que Dieu sait ce qu'il fait et il a de bonnes choses en vue pour nous. Je l'ai lu tout à l'heure, hein, on l'a lu dans 1 Corinthiens 15, il dit « Nous serons transformés. Le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, donc il n'y aura rien. Actuellement, on vieillit et on meurt chaque jour. » À ce moment-là, il y aura un corps qui ne vieillit pas et qui ne se corrompt pas, parce qu'il n'y aura rien pour le corrompre. Actuellement, on meurt. Nous aurons un corps qui ne meurt pas. Hein, c'est Dieu, Jésus a prévu plus que ce qu'on aurait demandé. Hein, les religions n'ont même pas pensé. Les religions qui disent « fais du bien, tout ça fait du bien », et puis après, quand tu mourras, ou tu meurs dans le djihad, ou tu meurs dans de quelque chose, tu y vas directement. C'est même pas possible. On n'est pas fait pour vivre sans transformation. C'est impossible d'exister. Et ils nous promettent ce qui est impossible. Hein. Alors, tandis que le Seigneur a pensé à tout cela avant même que nous y pensions. Et j'ai plus confiance en lui. Et nous recevrons un corps nouveau et il ressemblera au corps de Christ. 1 Jean chapitre 3, je lis rapidement. 1 Jean chapitre 3. Et au verset 2. Dit « Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Hein » 1 Jean 3, verset 2. Il dit « On ne sait pas ce que c'est, mais ce que nous savons, c'est que nous serons comme lui. » Pour ceux qui sont morts déjà, ceux qui sont en Christ et qui sont morts, eh bien nous savons que le corps, bien sûr, le corps reste et il est enterré, dans le meilleur des cas, hein, la plupart des cas, même s'il est brûlé, même s'il est perdu, même s'il est explosé, peu importe, le corps reste, mais l'esprit de croyant va dans la présence de Dieu. Et c'est certain. Hein, l'apôtre Paul nous donne plusieurs passages concernant cela. Il nous dit par exemple, dans 2 Corinthiens 5, 8, il nous dit « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps que et demeurer auprès du Seigneur. » Si je quitte ce corps, pour l'enfant de Dieu, s'il quitte ce corps, son âme va dans la présence de Dieu. Donc, la résurrection de ceux qui sont morts, c'est juste une question de rejoindre, hein, réunifier l'âme et le corps. Il dit aussi, dans Philippiens 1, 23, il nous dit « J'ai le désir de m'en aller et être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Et lui, il ne parlait pas de l'avenir, il parlait de tout de suite. Il dit « Si je suis absent ici, présent avec le Seigneur. » C'est notre assurance, c'est notre confiance. Il n'y a pas d'endroit intermédiaire où on est en suspens, on ne sait pas trop. Hein, il n'y a pas de purgatoire. Hein, il n'y a rien dans la Bible qui parle de purgatoire, un endroit où on irait purger. Et cette notion existe et le catholicisme nous l'enseigne, l'islam nous l'enseigne, mais la Bible ne l'enseigne pas. Hein, il n'y a pas d'endroit intermédiaire. Où les choses sont réglées sur terre et on va directement avec le Seigneur, ou bien elles ne sont pas réglées sur terre et ils ne sont jamais réglées. Donc c'est maintenant qu'il faut régler ces choses. Et là, ce qui fait la différence, eh bien, c'est si nous avons été rachetés par le sang de Christ, si on avait accepté, on a accepté ceci. Et donc, quand l'apôtre Paul dit « Je vous dis ces choses, c'est pour vous consoler », ben c'est sûr que ça console. Parce que ça dit « Ouf, ça ne dépend plus de moi, ça dépend de lui ». Et le mort ne peut plus rien faire pour lui-même, mais Dieu peut faire pour lui. Et comme c'est Dieu qui fait tout, alors je suis tranquille. Quand arrivera l'enlèvement de l'Église, hein, je dis, le Seigneur répond non pas à la question de quand, mais comment. Mais ce que nous essayons d'un peu, peut-être de voir un peu d'une chronologie, hein, de ce qui nous attend, d'après les prophéties du Seigneur. Et il y a quelques éléments qui nous permettent de se donner une idée de l'ordre des choses. Bien sûr, le seul livre prophétique du Nouveau Testament, c'est cette révélation de Jean, hein, qui a appelé l'Apocalypse aussi. Et lorsque nous regardons, il n'y a rien qui nous empêche de croire que les choses vont se passer dans l'ordre où elles sont révélées. Dans l'Apocalypse. Hein? Si ce n'est pas comme ça que ça se passe, alors donne-moi une bonne raison pour que ça ne se passe pas comme ça. Hein? Si vous lisez le plan de l'Apocalypse, vous allez voir dans les premiers, le chapitre 2 et 3, il s'adresse aux églises, hein, les sept églises. Et puis après, au chapitre 4 à 18, il nous décrit la grande tribulation, hein, le jugement. Et dans les chapitres 19, il nous parle de l'avènement de Christ sur terre, quand il descendra avec ses saints sur la terre. Hein, il posera les pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Au chapitre 20, il nous parle du millénium, ou du royaume de 1000 ans, que Dieu établira, qu'il instaurera sur terre. Et à moins d'avoir une indication particulière, eh bien, nous le prenons littéralement, hein. Comme on prend tout le reste de la Bible, à moins que ce ne soit pas possible. Et puis ensuite, chapitre 21-22, il nous parle des nouveaux cieux et nouvelles terres. C'est ça la chronologie des choses dans l'Apocalypse. Et donc, on se dit, ben, ça doit être comme ça, ça va se passer. Après le chapitre 2 et 3, où il parle de l'Église, il n'y a plus mention de l'Église. Il n'y a plus mention de l'Église en tant qu'Église. Il y a mention de personnes qui croient et qui sont sauvés pendant la grande tribulation. Ils ne sont pas appelés l'Église, ni est-ce qu'ils sont appelés Israël. Ils sont appelés les rachetés. Hein? Donc, c'est la grâce de Dieu est telle que, avant Noé, la grâce de Dieu était là. De Noé jusqu'à Moïse, la grâce de Dieu était là. De Moïse jusqu'à Christ, la grâce de Dieu était là pour sauver. De Christ jusqu'à la fin de l'enlèvement de l'Église, la grâce de Dieu est là. Pendant la grande tribulation qui est prévue, la grâce de Dieu est là pour tous ceux qui se tournent à Dieu. Tant qu'ils sont vivants, ils peuvent se tourner à Dieu, peu importe l'événement. Mais une fois que nous sommes morts, alors c'est irréversible. Hein? Donc c'est important de le savoir. Et ce que nous voyons, c'est que dans le chapitre 19, quand Christ revient, il nous dit qu'il revient avec les saints. Alors, s'il revient avec les saints, c'est que les saints sont déjà là-haut. Hein? Donc, il y a des gens qui vont dire que c'est l'Église est enlevée juste après les tribulations, ça veut dire qu'ils partent et puis reviennent de suite. Bon, c'est possible, hein, moi, peu importe comment ça se passe, je sais que le Seigneur fera bien les choses. Mais je fais le choix de croire que l'enlèvement de l'Église se fera avant la grande tribulation. Hein, donc c'est pour ça qu'on emploie des termes comme pré-tribulationniste, hein, donc avant la tribulation, qui se passe avant le millénium, hein, parce que je crois que le millénium représente un moment précis, donc on est pré-millénariste. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur sait quand il va le faire. Ce qui importe, ce n'est pas le quand, c'est question de ça va arriver, c'est sûr de venir, soyons prêts. Hein? Nous avons des passages qui nous parlent de ce retour avec Christ. En 2 Timothée 2:12, il dit « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Hein? » Donc, nous régnerons avec lui. Donc, il y aura un règne sur terre à un moment précis. Donc, le millénium doit exister. Hein? Il y a des chrétiens très bien. Hein? Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas sauvés, ce n'est pas des bons chrétiens, mais il y a des chrétiens qui favorisent, ils disent que le millénium, c'est symbolique et non pas littéral. Hein? Bon, c'est des frères qui sont très bien, hein, et vous allez en rencontrer, hein, embrassez-les, hein, ils sont très bien, mais moi je pense, j'ai choisi de prendre la Bible, quand ça dit quelque chose, je le prends tel que c'est marqué, et puis voilà, à moins d'avoir une bonne raison pour ne pas le croire. Quand il me dit que les montagnes battent des mains, alors je me dis ça ne doit pas être littéral, hein, parce que les montagnes n'ont pas de mains à battre. Hein, donc, ça veut dire qu'ils sautent comme des veaux. Je sais que les montagnes ne sautent pas comme des veaux. Donc on prend là symboliquement, hein, la joie. Mais quand c'est possible que ce soit littéral, alors je le prends littéralement. Et puis, voilà. Donc 2 Thessaloniciens, je vous invite, vous êtes en Thessaloniciens, prenez 2 Thessaloniciens, chapitre 2, on va lire les versets 15 et 10 à 17. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 15 à 17. Il dit « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues par notre parole, soit par notre lettre, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. » Dis voilà. Pratiquons cette parole. Hein? Le Seigneur a prévu des choses. On ne sait pas comment il va les réaliser. Tout ce que je sais, c'est je sais que ce qui s'y a promis, qui est passé, s'est passé comme il l'a voulu. Donc je me dis certainement ce qui va venir va se passer comme il l'a prévu. Hein, donc soyons fidèles. Il nous dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 3, il nous dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Hein, » Donc si vraiment je crois que Jésus va revenir et que ça peut arriver à tout moment. C'est-à-dire que ça pourrait arriver aujourd'hui, comme ça peut arriver demain, comme ça pourrait être en 10 ans. Hein, déjà, on attend, ça fait 2000 ans qu'on attend. Peu importe quand ça arrive, ce que je veux, c'est être trouvé prêt. Hein? Je me rappelle une fois, on avait invité par le biais du mari, on a invité, on savait que sa femme venait, et donc on a dit, ben écoute, tu viens avec ton épouse, on va manger ensemble le soir. La question c'est que quand ils sont arrivés, ma femme venait d'avoir un club d'enfants. Et la maison, c'était un bazar. Et moi, comme je ne suis pas toujours gentil, Et j'ai vu sur son visage qu'elle se demandait si son mari l'avait bien compris, que c'était le bon jour. J'ai dit, ah bon, c'était aujourd'hui? Et alors, elle, tout de suite, elle a dit à son mari, écoute, on va partir, on reviendra tout à l'heure. Elle était toute gênée. Pourquoi? Et tout ça parce que, quand elle est arrivée, la maison n'était pas prête. Donc, il s'est dit, on a mal compris. Parce que normalement, si on invite du monde à la maison, eh bien, la maison, normalement, elle a l'air d'être prête. Hein? La cuisine est tout ramassée, tout est en ordre, les oreillers sont à leur place, tout va bien, tout est... Et si on ne trouve pas ça, on se dit, oh, peut-être ils n'ont pas prévu. Mais le Seigneur, si je crois que le Seigneur va venir, eh bien, il faut que ma vie soit prête. Hein? Sinon, ce n'est pas sérieux. Sinon, on va douter. Et pour que l'enfant de Dieu, chacun, sa vie doit être en ordre. Pour que quand le Seigneur vient, eh bien, il trouve, jusqu'au moindre détail, le balai est à sa place, la pelle est à sa place, les oreillers sont à leur place. Bon, après, c'est que dans beaucoup de maisons, après, il ne faut pas ouvrir les placards. Hein? Mais bon, mais dans notre vie avec le Seigneur, il faut que même le placard soit rangé. Hein? Voilà. Mais vous savez, c'est une belle chose. Le Seigneur revient et il va nous prendre. Mais pour ceux qui sont en Christ, ça, c'est ça le détail important qui nous concerne, c'est d'être en Christ. C'est-à-dire que chacun de nous doit reconnaître qu'il est enfant de Dieu, qu'il est pécheur. Reconnaître que Christ est mort sur la croix et dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je voudrais que tu me pardonnes. Je veux être à toi. Je veux compter parmi tes rachetés, parmi tes enfants. Et je sais que tu prendras soin de moi. Je me confie à toi. Je me donne à toi. Tu t'es donné pour moi. Je me donne. Toi, tu es mort pour moi. Moi, je veux vivre pour toi. Hein? Et c'est important de régler cela. Après, peu importe quand le Seigneur vient. Hein? Je veux être dans l'ordre. On ne voudrait surtout pas devoir rougir quand il revient. Et on n'aura pas l'occasion de dire « Attends deux minutes hein, !» Parce qu'il nous dit que tout ça se passera en une seconde, un clin d'œil. Alors, c'est rapide, hein, le clin d'œil. Et soyons prêts. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ces paroles qui sont là pour notre consolation. Et c'est avec elles que nous nous consolons les uns les autres. Et que même si nous perdons un être cher qui est en toi, bien nous n'avons aucune préoccupation. Pour ce qui les concerne, nous savons que tu prends soin d'eux. Et Père, nous savons pour nous-mêmes aussi, et avec la situation dans ce monde, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer entre les cataclysmes et les choses que les hommes dans leur méchanceté provoquent. Seigneur, rien n'est sûr, mais ce que nous savons, c'est que toi, tu es sûr. Et nous voulons compter sur toi. Donne-nous de marcher fidèlement, de maintenir notre maison spirituelle, notre vie dans l'ordre, et afin d'être prêts et de te montrer que nous sommes prêts pour ton retour, que nous croyons vraiment à ton retour. Père, merci pour ces paroles. Merci pour ce que tu nous apportes. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Prenons un cantique. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Je crois que ça, c'est tout à fait à propos. Le 475, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Pourquoi? Parce que ben, tout est en place, tout est bien. Et nous pouvons nous réjouir dans le Seigneur. 475. Après cela, je demanderai à Fabien s'il peut implorer la bénédiction de Dieu sur nous pour cette semaine. Donc, chantons le 375. 475.
Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Joignant nos célestes phalanges, gloire à Dieu, gloire à Dieu. chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu.